Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en décembre 2016 et vous écoutez l'épisode 82 des Chroniques de Proxy Jeux. Je suis Père Castor et je suis accompagné de Flavien. Salut Flavien.
Salut Père Castor, et chaque mois on change d'animateur. C'est le mois dernier, c'était Matt et David. Là c'est tous les deux, on va changer tous les mois.
C'est ça, on est pour la parité.
Il y aura des surprises dans les mois à venir, vous verrez.
On verra. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des différentes chroniques de l'épisode 82. Et avant de démarrer, on va d'abord remercier la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et on remercie également nos tipeurs de soutenir ce podcast. Un grand merci à Ocaseo, Monsieur Tino, Lionel, Fnup, Célia, Psyned, Gaëtan Perrin, Lucha, Krishk, Alès, Jimmy Celtics 95, Aldebaran, Sébastien, El Pouillou, Didub, Néophytes, Ladaline, Jean, Olivier, Alta, Siol, Nadoteki, Plouf Plouf, Volvi, Deckmoon, Chris et Hongro, Benjib, Mathieu Bossu, Grovast, Lacariatre et Arnaud Van Muizenwinkel.
Tout ça, ça fait un paquet. Je voudrais juste passer un message à Jimmy Celtics of 95, lui dire que c'était les pseudos MSN. Fallait passer à autre chose.
Mais tu peux peut-être pas personnaliser ton pseudo sur Tipeee.
Si, je pense qu'il l'a fait sciemment.
Et un grand merci également au Patreon qui a été fermé ou qui est sur le point d'être fermé. Hein. Donc là, on est fin décembre.
On ne prendra plus votre argent.
Voilà, un merci à Hervé Mignot, Julie, Baptiste H, Le Durny, Vincent, à Toulousain, Jérôme Cavu, Johan Bonneau, Yann Ménez, Guillaume Aubert.
Il est encore temps de basculer sur Tipeee. Et on va en profiter aussi pour remercier Monsieur et Madame Blu pour leur participation active à la Haute du Père Noël de Proxy Jeux, qui a eu un succès phénoménal avec des millions de retweets et de millions de partages sur Facebook. Donc merci à ceux qui ont retweeté, même à ceux qui n'écoutent pas le podcast, ça fait un peu de visibilité, même si je crois que dans l'équipe, on espère tous que ce soit vraiment un auditeur qui reçoive les cadeaux. Et donc merci beaucoup à la famille Blu pour leur participation à ces lots, ma foi, qui sont de qualité, hein, il faut le dire, avec les jeux Istari. Là, il y a des très très beaux jeux dedans.
Tout à fait. Et le résultat du concours sera très prochainement annoncé. Je pense qu'on laissera notre président annoncer le résultat.
Et faire le choix. Enfin, le choix. Et faire le tirage au sort.
Et faire le tirage au sort, oui. Alors, pour les chroniques d'aujourd'hui, c'est un ensemble de jeux qui va vous être présenté par les différents chroniqueurs de l'équipe. Et ça pourrait faire un très bon programme pour le réveillon du 31, donc, qui arrive à grands pas. Donc, on va...
Et qu'on vous souhaite bon. Enfin, il est sûrement passé maintenant, mais on espère qu'il a été bon, bien arrosé, avec de la bonne bouffe et des bons jeux.
On va peut-être essayer de le mettre en ligne avant samedi. Hein,
ah ouais, oh, quel talent.
Et donc, pour vous rendre à votre soirée du réveillon, hein, donc il n'y a pas mieux que les transports en commun. Et pourquoi pas.
Et si ce serait les trams, mais chez vous, peut-être que ce serait effectivement des trains.
Voilà, ouais. On va tout de suite écouter Courju qui va nous présenter Ride the Rail.
Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ça va trancher, chérie!
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non.
Je vous avais prévenu, ça va trancher.
Bonsoir les joueuses, bonsoir les joueurs, les bricoleuses et les bricoleurs. Ici Courju, pour une nouvelle chronique Print and Play, où je vais vous présenter le jeu Ride the Rail, donc un jeu de train, un jeu créé par David Thompson, pour deux joueurs en coopération, à partir de 8 ans et pour une durée annoncée de 30 minutes. Donc Ride the Rail, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont essayer de relier trois villes entre elles. La ville de Middletown qui est au milieu, la ville de Eastport à l'est et la ville de Westgate à l'ouest. Quand on commence la mise en place du jeu, la ville de Middletown est en place au milieu et les deux villes extrêmes sont également en place. Et donc le but des joueurs va être de créer un réseau ferré qui va relier ces trois villes et également de collecter un certain nombre de ressources. Le jeu est constitué de plusieurs tuiles hexagonales qui représentent le réseau ferré. Certaines ont un rail droit, un rail courbe ou deux rails. Il y a également donc un train pour chaque joueur, un pion train pour chaque joueur. Des ressources, donc il y a du charbon, du bois et de l'acier. Et des jetons qui vont représenter le type de terrain qu'on va rencontrer au fur et à mesure qu'on va explorer le paysage. Les joueurs ont également des ouvriers à leur couleur, et ces ouvriers pourront être positionnés sur les différents types de terrain pour collecter des ressources. Donc, le principe du jeu, donc on alterne les tours des joueurs et le tour du jeu. Donc, il y a un adversaire virtuel qui est le baron, qui va venir gêner les joueurs. Comment ça s'est matérialisé? C'est des cartes sur lesquelles il y a des événements. Et donc, à chaque tour, il y aura un événement comme ça qui va arriver. Par exemple, ce tour-ci, construire des rails, ça coûte plus cher. Au lieu de dépenser un acier, il va falloir en dépenser deux, etc. Également, sur ces fameuses cartes événements, il y a un nombre de ressources affichées. Et à la fin du jeu, lorsque les trois villes seront reliées, il faudra également que les joueurs aient collecté au moins autant de ressources que la somme de toutes les cartes du baron qui ont été jouées pendant le jeu. À leur tour, les joueurs peuvent effectuer plusieurs actions, construire des rails, on paye un certain montant en acier selon le fait qu'il y ait un rail ou deux rails sur la tuile, et on va donc venir le connecter à une tuile qui nous est adjacente au train, et on va révéler deux petits jetons terrain ou un petit jeton terrain selon le nombre de rails qu'il y a sur la tuile, pour savoir quel va être le terrain des prochaines tuiles qu'on va poser. Il y a des terrains qui sont infranchissables, des lacs et des montagnes. Enfin, infranchissables. On a le droit de construire dans toute la partie 3 ponts sur les lacs et 3 tunnels au niveau des montagnes. Mais bon, il y a beaucoup plus de montagnes et de lacs que ça. Et ensuite, il y a des terrains, donc des forêts qui vont produire du bois, des mines qui vont produire de l'acier et d'autres mines pour du charbon. On les voit, visuellement, c'est différent au niveau de la tuile. Les joueurs commencent la partie avec deux ouvriers qu'ils pourront déposer sur l'un de ces terrains pour produire des ressources et pourront plus tard construire des postes de commerce. Et ce poste de commerce va leur permettre de collecter, de récupérer un nouvel ouvrier et leur permettront aussi d'échanger des ressources à distance puisque normalement les joueurs ont le droit d'échanger des ressources mais uniquement s'ils sont sur la même case avec les postes de commerce. Si les deux joueurs sont sur deux postes de commerce, ils peuvent échanger des ressources librement. Il faut consommer du charbon pour se déplacer. Et un joueur, à son tour, peut faire toutes les actions qu'il veut. Donc, il peut se déplacer de trois cases, construire un rail, échanger des ressources, etc. On a le droit d'échanger aussi avec la banque pour trois ressources contre un. Donc, c'est un poil cher, mais on peut le faire. La subtilité du jeu, à mon sens, c'est que quand vous gagnez un nouvel ouvrier, donc en ayant construit un poste de commerce, vous avez le droit de prendre un ouvrier de la couleur de votre partenaire. Et du coup, quand vous allez le poser, c'est votre partenaire qui collectera les ressources. L'intérêt de ça, c'est que, évidemment, si les deux joueurs vont explorer chacun dans une direction séparée, et qu'un joueur ne trouve jamais, par exemple, de charbon, l'autre joueur va pouvoir positionner un ouvrier sur le charbon pour son partenaire. Il faudra faire attention à ne pas trop explorer, parce que on perd la partie immédiatement si on a joué la dernière tuile hexagonale du jeu. De même, si la dernière tuile terrain est jouée, les joueurs ont perdu également. On gagne si on arrive à rejoindre les trois villes, et que la valeur de toutes les tuiles occupées par nos ouvriers, les tuiles terrain donc occupées par nos ouvriers, est au moins égale à la valeur des cartes baron qui ont été jouées pendant la partie. Le jeu propose également des variantes pour augmenter la difficulté, ou une variante solitaire, qui augmente également la difficulté. Moi, je pense que la version à deux joueurs est très bien également pour jouer tout seul. Mais, pour augmenter la difficulté, la variante solitaire peut être sympa. C'est un jeu qui est sorti en 2013 et qui avait participé à l'époque à un concours de design sur BGG. Pour la réalisation de ce jeu, l'une des difficultés consiste à créer des tuiles hexagonales. L'auteur a bien fait le travail puisque les fichiers sont disposés de manière à ce que la fabrication soit la plus facile possible. Pour ma part, je les ai collés sur des dalles de PVC adhésives, des dalles de lino. Une fois pré-découpées, avec juste un passage au cutter au niveau du papier, la dalle de lino se plie facilement en deux et du coup la découpe peut se terminer comme ça en pliant la tuile de lino et en la cassant juste à la main, ça se fait très bien. Voilà, maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, jouez bien.
Tu voulais ouais. Dire quelque chose sur le jeu.
Ride the Rail, tu vois, j'ai du mal à le prononcer. C'est un peu, il y a des jeux comme ça qui sont un peu complexes. C'est encore un jeu de train. Toi, il y a un jeu de train que tu aimes particulièrement parmi les autres parce que c'est un jeu, enfin un genre de jeu qui existe depuis un paquet de temps maintenant et.
Trains, tout simplement.
Trains.
Ouais.
Ouais, c'est AEG, c'est ça qu'il avait
AEG,
fait en anglais.
AEG,
ouais. Hein.
Localisé par Philo.
Ouais, c'est ça qui reprenait un peu les mécaniques de
Dominion.
Mais avec un plateau de jeu qui avait son importance. Ouais, moi j'aime beaucoup les aventuriers du rail, bien sûr. Il y a Russian Railroads avec son extension German Railroads, qui apparemment vaut le coup.
Bon, est-ce que la thématique du train est pas trop plaquée sur Russian Railroad ?
Ouais, si, c'est un jeu scoring. Et il y a tous les 18XX, je crois, aussi, qui utilisent
les Steam, Age of Steam, ouais.
Ouais, ouais.
Mais
ouais,
ça, là, j'y ai pas joué, là.
Le train, toujours présent, toujours là.
D'ailleurs, toujours pour à propos de votre soirée du réveillon, donc si vous vous ennuyez dans le train, quoi de mieux que de sortir votre téléphone,
votre iPad reçu à Noël.
Votre iPad reçu à Noël, par exemple. Et on va tout de suite écouter Fendoel, qui, sur son terminal mobile, nous présente Mr. Jack Pocket.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Fendoel et voici le nouveau numéro des plateaux numériques. Aujourd'hui, je vous présente l'application Mr. Jack Pocket. Mr. Jack Pocket, c'est, on va dire, un dérivé du jeu original Mr. Jack. Alors, c'est une autre boîte, hein. C'est une boîte plus petite, plus ramassée, composée de 9 tuiles et de 4 jetons, et dans lesquels, dans ce jeu, les deux joueurs qui vont s'affronter incarne soit Mr. Jack, soit les inspecteurs qui sont chargés de trouver Mr. Jack. Au début de la partie, le joueur qui incarne Mr. Jack va piocher une tuile pour savoir quel est le suspect qu'il va incarner, et donc en fait qui va être Mr. Jack parmi les 9 suspects disponibles dans le jeu. À chaque tour de jeu, les deux joueurs vont alternativement jeter 4 jetons en l'air, qui vont déterminer les 4 actions à faire durant ce tour et durant le tour suivant. Parce qu'au tour d'après, on va tout simplement retourner les jetons, ce qui fait que les 8 actions disponibles, et oui, 2 par phase de jetons, pourront être réalisées durant 2 tours. Donc on peut éventuellement anticiper, savoir ce qui va tomber au tour d'après. Il y a une autre mécanique intéressante qui est le fait que le premier joueur choisit un jeton, le deuxième joueur en choisit 2 parmi les 3 restants, et le dernier joueur se contente du dernier jeton. Et donc ça, alternativement, ce qui permet aussi une grande réflexion sur les jetons qu'il faut choisir ou pas. À chaque tour, les joueurs vont donc choisir des jetons. Et la plupart des jetons, en fait, vont simplement faire avancer les inspecteurs. Les inspecteurs tournent en rond, toujours dans le même sens. Et à la fin du tour, on pourra estimer si les inspecteurs, quels sont les suspects que voient les inspecteurs. Et Mr. Jack devra dire, je suis parmi ces suspects ou je ne suis pas parmi ces suspects. S'il n'est pas parmi les suspects, évidemment, on enlève tous ceux qui sont innocents, hein, qui ne sont pas Mr. Jack. Et qui ne sont en fait de façon certaine, c'est-à-dire en gros ceux qui sont actuellement visibles. On fait également l'inverse si Mr. Jack est visible. D'accord ? Sauf que le but du jeu pour Mr. Jack, c'est de gagner du temps. Donc chaque fois qu'il est non visible, il va gagner un petit sablier. Chaque fois qu'il est visible, il ne gagnera pas de sablier. Et donc il ne se rapprochera pas de la victoire. Le but du jeu pour Mr. Jack, c'est d'accumuler 6 sabliers. Le but du jeu pour les inspecteurs, c'est de discriminer de façon précise qui est Mr. Jack et de pouvoir le voir et donc l'attraper au dernier tour. Concernant l'application, elle a été adaptée en 2014 par MeepleTouch et depuis, en 2016, a été reprise par Asmodée Digital. Elle est disponible en 5 langues, donc français, anglais, allemand, espagnol et italien. Le tutoriel est composé de soit des règles en PDF, soit des règles animées. Alors il y a une petite animation qui plonge dans l'ambiance, qui sont très sympas. Soit de 6 petits challenges à réaliser, donc permettent d'aller un petit peu plus loin dans les règles. Et franchement, c'est original et c'est vraiment très très bien. Il existe différents modes de jeu. En local, il est possible de jouer contre une intelligence artificielle, en fait 3 intelligences artificielles, assez relevées d'ailleurs. Il est possible également de jouer en mode blitz, c'est-à-dire de jouer contre une intelligence artificielle et de gagner des points pour chaque partie gagnée contre elle. C'est assez spécial. Ensuite, il est possible de jouer alors ce qu'ils appellent en mode duel, c'est tout simplement l'un contre l'autre sur la même tablette ou sur le même téléphone. Et enfin, il est possible de jouer par Internet grâce au réseau d'Asmodée / Days of Wonder. Niveau gameplay ergonomie, les graphismes respectent vraiment les... En fait, ils ont complètement repris les graphismes d'origine qui étaient de Jean-Marie Mingues. Alors c'est décrayonné, ça fait un petit peu style BD. Donc clin d'œil, évidemment. Ensuite, l'interface est franchement confortable. Il y a des bonnes indications, il n'y a pas grand chose qui s'affiche, mais c'est vraiment exactement essentiel. À chaque fois, ce qu'il faut faire est écrit en texte directement à l'écran. C'est du glisser-déposer, ou franchement, c'est très, très agréable à utiliser. Alors, il y a d'autres fonctionnalités disponibles évidemment à l'écran. Il est possible de revoir son profil avec ses statistiques, voir ses meilleurs scores, éventuellement accéder aux options, avec les options qui permettent de modifier la langue, de modifier les animations, d'activer la musique ou pas. À ce propos, la musique est quand même super redondante, donc on a vite fait de la couper. On peut également avoir accès au crédit pour savoir qui a fait l'application. On peut tweeter directement un message depuis l'application ou voir les dernières nouveautés quand il y a une mise à jour de l'application. Alors l'application est au prix de 4,50€, quelque chose comme ça, dans les 4€. Sur iOS et Android, elle est actuellement en solde, alors si jamais vous écoutez l'épisode et qu'il est encore solde, profitez, à 50%, c'est le cas de temps en temps. Alors, ma critique, j'ai assez peu de reproches à faire à l'application Mr. Jack. Peut-être, on va dire directement, la musique, vraiment. Alors, j'aime bien la musique, mais en fait, elle devient très très vite lancinante, etc. Enfin, c'est un rythme assez lent, et au bout d'un moment, ça m'énerve. Mais bon, c'est personnel, il y en a peut-être qui l'écouteront à longueur de journée. L'interface est agréable, absolument rien à dire, c'est du glisser-déposer, c'est quelque chose de très visuel, on peut manipuler les tuiles, on a vraiment l'impression d'interagir avec le vrai jeu, et ça c'est très agréable. Les modes de jeu sont nombreux, inventifs, enfin le mode Blitz c'est juste très sympa, et c'est une super idée sur ce genre d'application. Le didacticiel est plutôt bien, franchement, proposer les 3 possibilités, le fait de lire le PDF, le fait d'avoir une présentation animée, c'est toujours très sympa. Et puis la présentation animée est vraiment chouette. Donc je recommande vraiment ce jeu qui prend parfaitement la place du jeu réel, mais qui reste transportable. Et je le trouve aussi très confortable à utiliser, même sur une tablette, mais aussi sur un téléphone. Même avec un écran petit, on arrive parfaitement à jouer avec. Et donc, vraiment, je recommande cette application. Voilà, jouez bien.
Mr. Jack Pocket, donc, un jeu avec ses ruelles sombres. On espère que vous ne tomberez pas dedans, justement, pour le réveillon, sorti trempé méché, capturé... dans une ruelle sombre auprès de Ben à ordures. Je ne sais pas si tu avais déjà joué, toi, à Mr. Jack Pocket.
Non, pas du tout.
C'est un bon jeu à deux. Moi, pour le coup, je n'ai pas joué à Mr. Jack, l'original. Et Mr. Jack Pocket, c'est effectivement un jeu de déduction. Je pense qu'il se prête très bien, effectivement, au portage. Un jeu de déduction assez malin qui dure 15 minutes vraiment et les deux rôles sont intéressants. Alors c'est peut-être pas aussi facile l'un que l'autre pour les premières parties, mais vraiment un jeu à emmener en vacances si vous n'avez pas d'iOS ou si vous n'avez pas de plateforme mobile. N'hésitez pas aussi à sa version physique, c'est vraiment si vous partez en couple ou avec un seul ami, ben c'est un incontournable, je pense, des jeux de voyage.
Et donc maintenant que vous êtes arrivé à votre soirée du 31, pour l'apéro, on vous propose un Soul Buzz.
Avec le sous-boc, le Soul Buzz.
Voilà, c'est ça. On est dans l'esprit. Et on va tout de suite écouter Yannibus nous parler.
Qui commence à avoir un peu des doutes sur le futur de sa chronique parce qu'il commence à plus avoir trop de buzz. Julien Lepers a quitté Question pour un champion.
C'est ça.
D'ailleurs, on espère que votre réveillon ne sera pas rythmé par Question pour un champion.
Voilà, ou le trivial poursuite. Et donc, on écoute Yannibus nous parler de Harbor.
Mais c'est quoi ce vieux héros ?
Sous le buzz, par Yannibus.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. Nouvel épisode de Sous le buzz. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal, depuis quelques épisodes, à trouver en fait des jeux encore accessibles, encore disponibles, notamment chez notre partenaire Philibert, mais ailleurs également, parce que j'achète un peu moins de jeux. Du coup, je fais plus attention quand j'achète, et du coup, bah, c'est rare que là, je tombe sur une perle qui n'ait pas déjà été validée en tant que telle lors de mes achats. Donc, je pense que je ferai évoluer un petit peu le concept de la chronique là pour 2017. En attendant, je vais vous parler d'un petit jeu de gestion, finalement, une fois n'est pas coutume, qui était sorti sur Kickstarter de mémoire, que j'ai eu la chance de me faire offrir par un ami, et qui s'appelle Harbor. Harbor est un jeu donc sorti en anglais uniquement, il me semble, un jeu de Scott Helms, qui est sorti chez Testy Minstrel Game, et donc sur Kickstarter, il a dû être expédié chez les Baker en 2015, il me semble. Harbor est un vrai jeu de gestion, de 2 à 4 joueurs, avec une variante solo, qui est pas mal fichue. Dans Harbor, vous allez devoir en fait optimiser vos ressources pour les revendre au meilleur prix et pouvoir acheter d'autres bâtiments. Le premier à construire son quatrième bâtiment déclenche le dernier tour et ensuite les points de victoire qui sont sur les bâtiments permettent de définir qui est le vainqueur. Il y a également une variante avec l'application d'objectifs en fait qui vous permet également d'avoir des points de victoire. Je vais pas revenir sur la mécanique du jeu en tant que tel, hein, c'est vous achetez des bâtiments qui vous permettent de transformer en fait 4 ressources primaires et vous faire donc gagner de l'argent pour acheter d'autres bâtiments. Là, on est dans le standard. Les deux petites particularités d'Arbor, c'est que c'est un jeu de poste d'ouvrier, mais vous n'avez qu'un ouvrier. Donc, c'est un ouvrier qui fait des allers-retours, en fait, entre les différents bâtiments, les vôtres et ceux que d'autres adversaires ont pu acheter. Ça, c'est la première particularité. Donc, c'est d'avoir une seule action au tour, ce qui rend la partie assez rapide et, en tout cas, très cadencée. On n'a pas l'impression d'attendre son tour éternellement. Deuxième particularité assez intelligente de Harbor, c'est en fait l'évolution des prix au marché. Quand un joueur choisit de vendre une denrée à un prix donné, cette denrée, elle est en fait basculée au prix le moins élevé et donc permet d'augmenter le prix des autres denrées. Et donc il faut constamment, pour pouvoir vendre au meilleur prix ses propres denrées, constamment vérifier l'évolution du marché, et anticiper en fait les coups que les autres adversaires vont jouer pour pouvoir soit ralentir, soit accélérer votre stratégie afin encore une fois d'avoir le plus de dollars possible qui tombent. En termes de points, on est plutôt dans une catégorie moyenne, on pourrait le rapprocher d'un Glenmore, d'un Gueule Noire. On est loin d'un jeu auquel on a souvent comparé Harbor, en tout cas au moment de sa sortie, qui est Le Havre, où là on n'est pas du tout dans la même profondeur, on n'est pas du tout dans les mêmes mécanismes. Dernière petite particularité de Harbor, c'est que en fait les joueurs commencent soit avec un plateau individuel, et on peut avoir des plateaux individuels qui ont des spécificités, donc des petits avantages. Et ça, c'est assez intéressant aussi, ça donne un petit côté asymétrique et permet en fait de casser un peu l'aspect calculatoire de l'utilisation des bâtiments. Donc si l'anglais ne vous rebute pas, je vous le conseille vivement. Bon, il n'y a pas énormément de textes, mais il faut tout de même comprendre un peu la langue de Shakespeare, ne serait-ce que pour les règles, et puis les petites spécificités qui sont décrites sur les cartes. Si vous détestez l'aléatoire, moi je vous conseille de retirer les bâtiments qui permettent de faire évoluer le marché. En effet, il y a des bâtiments qui vous permettent, par exemple, de passer tout de suite une denrée sur le prix le plus élevé ou le prix le plus bas. Donc, si vous, ça permet, ça casse un petit peu le rythme, l'effet calcul permanent dans le jeu. Mais vous pouvez tout à fait les sortir, ces 4 ou 5 bâtiments-là, avant de commencer votre partie, pour être sûr qu'il y ait personne qui puisse ajuster le marché de manière un peu aléatoire. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura donné envie de au moins d'essayer ce jeu, qui est en plus à un prix assez intéressant, qui est, je crois, à 19€, 20€ chez notre partenaire Philibert. J'espère que ce podcast sortira avant les fêtes de fin d'année, donc vous permettra en fait de me permet donc de vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année, de bien profiter de cette période de vacances si vous êtes en vacances, pour qu'elle soit la plus ludique possible en famille ou avec vos amis. En tout cas, moi, ça va être mon cas. J'espère vous revoir en forme, vous reparler en forme, en tout cas en 2017. Et d'ici là, jouez bien.
Bon, vu comme il l'a présenté, j'ai l'impression que Arbor le jeu est mieux que Pearl Harbor le film quand même. Au début, c'est drôle parce que quand, ouais. Enfin, c'est drôle.
Ben ça, c'était un blockbuster. Donc,
ouais, ouais bon, il y a de bons blockbusters. C'est vrai qu'il n'est pas passé sous le buzz. Et ouais, quand il commençait à dire « je vais vous présenter Arbor », j'étais sûr qu'il allait dire Arbor et tout, qui pourrait être un sous le buzz, éventuellement. Mais non, c'est juste Arbor.
Alors, pour pimenter l'ensemble de la soirée, rien de tel qu'un jeu où on se met un petit peu en scène, un jeu où on va jouer un rôle.
On va discuter, parce que finalement, voilà. Le réveillon tout seul à ne pas parler, c'est pas très rigolo. Hein.
Voilà, sinon, bah, on peut jouer un jeu en solo si on est seul pour le réveillon.
Si on est seul,
c'est aussi une alternative. Mais là, si on est avec beaucoup de monde autour de la table, quoi de mieux qu'un jeu où on va incarner quelqu'un, on va incarner un personnage.
Time Stories, par exemple.
Non. Non, mais là, il faut plus qu'un réveillon pour faire un scénario de Time Stories. Là, tu l'as quand même placé, hein. Et on va tout de suite écouter Olivier DPJ nous parler de Fiasco.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Olivier DPJ et aujourd'hui je vais vous parler de Fiasco. Fiasco n'est pas à proprement parler un jeu de société mais plutôt un jeu de communication qu'on pourrait éventuellement rapprocher du jeu de rôle. Mais pour comprendre ce qu'est Fiasco et pour comprendre de quoi je vais vous parler, il faut d'abord que je vous parle de Fargo. Fargo, c'est avant tout un film de 1996 produit et réalisé par Joel et Ethan Coen. C'est aussi une série dont les deux premières saisons sont d'ores et déjà disponibles et pour lesquelles la troisième est en cours de réalisation, elle sera disponible en 2017. Chaque saison est indépendante l'une de l'autre et raconte l'histoire de personnages qui sont assez attachants et qui littéralement s'embourbent dans des histoires abracadabrantes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à visionner cette série. Chaque saison fait une dizaine d'épisodes, 55 minutes par épisode, ça se binge-watch assez facilement et quand on a commencé, on n'a vraiment pas envie de s'arrêter et on veut vraiment savoir comment les personnages vont s'en sortir. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Fargo ? Eh bien, parce que Fiasco reprend la même thématique que le film et la série télé, c'est-à-dire que les joueurs vont être placés dans des situations qui seront plus incongrues les unes que les autres et vont raconter des scénarios qui vont petit à petit amener à des situations qui seront inextricables et intéressantes. Avant de continuer, je vais vous lire un court extrait, une illustration du livret de règles qui va vous aider à comprendre, si vous ne connaissez pas Fargo, un petit peu l'essence de ce jeu. Ils ont volé ma dope et se sont aussitôt tirés d'ici. Ils auraient pu s'en sortir, mais ton putain de fils est tellement crétin qu'il a laissé son permis de conduire dans la main du mec mort. Et c'est une quote tirée de True Romance. Il n'y a jamais de situation qui finisse bien dans Fargo. L'idée du jeu, ça va être de passer une soirée à construire ces situations, à les développer et à en trouver une fin, quelle qu'elle soit. La première partie du jeu va donc être consacrée à tisser les liens entre les joueurs et à définir le background de l'histoire. Les règles nous proposent quatre axes pour développer notre histoire. Les relations entre les joueurs, ils peuvent être de la même famille, ils peuvent être du même groupe criminel, par exemple. Leurs besoins, s'échapper, mais pas forcément s'échapper d'un lieu, par exemple s'échapper d'une relation amoureuse, ou s'en sortir après un événement particulier. Un lieu, bien sûr, et puis des objets. Alors, les objets, ça peut être des informations, ça peut être aussi, par exemple, des caméras de surveillance. Les livres de règles nous proposent des cadres prédéfinis. Boomtown, le Far West, l'enfer résidentiel, ça peut être également une base polaire. Et dans le cadre qui aura été défini, on pourra faire des choix. On va d'abord lancer toute une brouette de dés, et chacun son tour, on va attribuer un dé à une relation, un besoin, un lieu, et on va à son tour affiner chaque interaction entre les personnages et chaque détail du background dans lequel on va raconter notre histoire. On va utiliser des post-it qui seront posés entre chaque joueur, et chaque post-it va relier, en fin de compte, les joueurs qui seront assis l'un à côté de l'autre, par une relation, par un besoin, ou par un lieu, par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on a suffisamment de matière pour commencer à narrer l'histoire. Chacun à son tour, on va raconter une scène, et cette scène sera drivée, conduite, par ce qui aura été écrit sur les post-it. Chaque joueur va donc incarner un personnage qui aurait été créé collégialement. À partir de là, deux solutions. La première, c'est que le joueur va avoir des idées et va pouvoir établir la situation et raconter le développement de la scène. Et les autres joueurs vont la résoudre. Ils vont donner soit un dé blanc, soit un dé noir. La moitié des dés sont blancs, l'autre moitié sont noirs. Un dé blanc signifie que la scène se finit de façon positive. Un dé noir signifie que ça ne se passe pas très bien. Une partie de Fiasco se déroule en deux actes. Entre les deux actes, on va rajouter des éléments qui vont compliquer l'histoire, et ça s'appelle les embrouilles. Alors je vous donne deux exemples, ça peut être une mort après une lutte déplaisante, ou ça peut être la chose que vous avez volée a été volée. Bref, vous l'aurez compris, la construction de l'histoire comme cette interruption en milieu de partie n'a qu'un seul but, c'est de raconter une histoire intéressante à l'image de ce qu'on peut voir dans la série ou le film Fargo. Personnellement, j'aime beaucoup, c'est un jeu assez atypique, un jeu de communication qui ne plaira pas à tout le monde, puisqu'il faut d'abord avoir des idées et être dans le mood de Fargo, et puis raconter des scènes avec aisance, c'est-à-dire que le plus vous pourrez rajouter de role-playing, c'est là qu'on empiète un petit peu sur le jeu de rôle, et le plus ce sera intéressant et plus vous pourrez vous marrer. Ça n'est pas du tout indispensable, mais c'est quand même un plus indéniable. Autre difficulté du jeu, ce sont les règles de mise en place et de développement de l'intrigue. Quand on lit le livret de règles qui fait 123 pages, c'est un peu compliqué de savoir comment est-ce que ça se passe. Il vaut mieux avoir quelqu'un sous la main qui a déjà fait une partie de Fiasco pour expliquer et débroussailler un petit peu les règles qui sont pas compliqué, mais dont on ne voit pas l'application précise quand on lit le texte pour la première fois. J'ai vraiment aimé jouer à Fiasco parce que j'y ai joué avec des gens qui étaient à l'aise à l'oral et qui se sont vraiment pris au jeu, qui ont joué le jeu de raconter l'histoire qu'on avait tracée ensemble. Ça se passe à Las Vegas, dans le désert, avec une intrigue à la Breaking Bad, et malgré une fin un petit peu en queue de poisson, on a passé une excellente soirée et on a très très envie de recommencer. Alors jouez-y avec les bonnes personnes, on peut jouer à tout mais pas avec n'importe qui, et vous prendrez beaucoup de plaisir. Fiasco, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de plutôt 16 ans. Il vaut mieux avoir vu les séries avant de jouer à Fiasco, et c'est clairement une série qui est orientée adulte ou jeune adulte et pas grand public. Le livret de base coûte une 20aine d'euros chez Philippe Bernet. Vous pourrez également vous procurer un deuxième livret qui est Fiasco Assuré, qui vous donnera plus de cadres pour diversifier vos récits. Le mois prochain, je vais vous parler de Time Story. Je vais essayer de faire quelque chose un peu particulier puisque je vais vous parler du jeu de base, mais aussi des scénarios auxquels on a joué cet été. Et je vais vous spoiler, c'est-à-dire je vais faire des retours de partie sur les différents scénarios, à commencer par le scénario de base et puis Marsikaze et la prophétie de dragon. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Alors si vous ne voulez pas les écouter, ben il n'y a pas de problème. Et puis pour ceux qui ont déjà joué, on aura peut-être une vision différente des scénarios et j'espère que ce sera intéressant. Je vous dis donc à dans un mois et en attendant, jouez bien.
C'est un jeu que tu as fait, toi, Fiasco ? Ou ce genre de jeu de rôle, justement, un peu adapté pour que ce soit fait assez rapidement, avec un esprit jeu de plateau un petit peu ?
Non, pas, non, pas beaucoup. Plutôt les jeux qui se jouent en one-shot, les types soirée enquête, où tu te costumes aussi,
ouais.
Ce genre de jeu. Ça marche assez bien pour les soirées du réveillon ou pour les
murders, ce genre de choses.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ouais, moi j'avais joué entre autres à Bimbo notamment, qui est un jeu aussi qui veut incorporer certaines mécaniques de jeu de plateau pour rendre le truc peut-être un peu plus abordable. Fiasco, j'ai le livre de base dont il parle. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec ses recommandations pour Fargo, au moins le film. J'ai pas vu la série pour le coup, mais c'est vrai que c'est un film dans l'absurde un peu de la périphérie des villes américaines qui est assez grinçant, même s'il y a beaucoup d'humour, toujours l'humour des frères Cohen. Donc une bonne recommandation effectivement Fargo. Moi je trouve par contre que Fiasco, j'ai jamais réussi à faire de partie parce que comme il le dit très bien aussi dans sa chronique, même si on essaie de simplifier et que dans la partie finalement c'est quelque chose de plus simple, au niveau de l'explication de règles, hein, je trouve que le jeu de rôle a encore effectivement des choses à tirer du jeu de plateau parce que en fait c'est très peu parlant et quand on lit les exemples etc, on a beaucoup de mal à se mettre en scène la manière dont fonctionne Fiasco. Et avec les histoires de relations, de trucs à mettre entre nous, en fait, on voit mal comment est-ce que la partie peut se dérouler de manière un peu fluide.
Comment le sel peut prendre, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
La question. Ouais.
Alors, c'est ce qu'il disait, c'est mieux, effectivement, si on a des gens qui sont capables, effectivement, de la jouer un peu roleplay et de s'incarner dans finalement pas grand-chose. Ouais,
parce
après.
Tu démarres avec des bribes, en fait, c'est un peu ça
ça.
Le souci.
C'est à toi de
poser un background un peu imaginaire.
C'est ça, à partir de petits trucs qui sont super intéressants, hein, parce que partir d'une relation pour construire un personnage, c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est difficile à. Soit expliquer, soit se représenter soi-même quand on est la règle. Effectivement, le conseil qui donne de commencer avec quelqu'un qui connaît le jeu et qui sait l'expliquer, je pense que c'est effectivement quelque chose de plutôt pertinent.
Ouais, il y a un gros temps d'adaptation, on va dire. Il y a une grosse courbe de progression, mais après, c'est comme il le dit, hein, c'est pas pour tous les publics.
Ouais. Tant mieux, hein, il en faut des jeux qui prennent des risques et qui plaisent pas à tout le monde. Sinon, les jeux qui plaisent à tout le monde en général, c'est des jeux qu'on a oubliés au bout de 3 mois, le temps qu'ils se vendent.
C'est ça. D'ailleurs, en parlant de jeux qu'on n'oubliera pas en 2016, on va tout de suite écouter, c'est pas une chronique, mais c'est l'interview de Iso qui a interviewé Dimitri Perrier et qui nous parle du prix des Diamants d'Or. Donc, un prix ludique réservé aux jeux velus, hein, on en reparle.
Aux jeux costauds, voilà. Aux jeux bien poilus et présidé par, où il y a entre autres Martin Wittberg également. J'avais discuté avec lui de ce prix, effectivement, ouais, c'est les jeux de ce genre de joueurs qui aiment bien se retrouver pour passer 2, 3, 4 heures sur un jeu.
Un peu comme nous, des fois, quoi.
Un peu comme nous, des fois.
Donc, on écoute tout de suite Iso.
Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le Japon et qui nous ramène au mois d'août de cette année, en 2016, alors que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dimitri Perrier.
donc un des créateurs du grand prix appelé le Diamant d'Or, qui est un prix réservé aux jeux, aux gros jeux de stratégie. Alors pour vous expliquer rapidement, enfin je ne vais pas vous expliquer exactement ce qu'est le Diamant d'Or, puisque Dimitri le fera dans l'interview que je vais vous diffuser. Par contre, je vais vous annoncer donc les 8 jeux qui ont été sélectionnés pour la grande finale du Diamant d'Or 2017, et la décision sera prise lors du week-end du 21 janvier 2017, lorsque les membres du jury se réuniront à Lille pour rejouer une dernière fois chaque jeu avant de voter pour les 3 lauréats. Alors, les jeux qui ont été nominés pour cette sélection sont Crysis, je connais pas ce jeu, First Class, Great Western Trail, Lorenzo il Magnifico, Railroad Revolution, Sight, Terraforming Mars et Yokohama. Le dernier étant parmi mes favoris. Malheureusement, je n'ai pas pu participer réellement aux présélections puisque je n'ai pas pu assister au Salon des Scènes et que les jeux, une grande partie des jeux qui sont sortis lors de ce salon, me sont arrivés bien trop tard pour que je puisse donner un avis pertinent sur ces jeux-là. Donc voilà, je vous laisse écouter tout de suite l'interview et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Alors bonjour Dimitri.
Ben bonjour Yannick.
Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Alors, je dirais que mon expérience ludique est sur le sujet la plus intéressante. C'est une entrée dans le monde du jeu par un premier contact avec Trick Track à ses tout débuts.
Ouais.
Et la participation au premier jury du Trick Track d'Or pour ensuite réussir à faire toutes les éditions jusqu'à la dernière édition physique qui a notamment été organisée chez nous. Les 3 dernières années ont été organisées chez nous. Ensuite, c'est, je dirais, des contacts assez tôt avec des maisons d'édition naissantes à l'époque, que pouvait être Cocktail Game avec Mathieu Despnou,
oui,
ou Reproproduction avec Thomas Provost et Cédric Comon, qui vraiment, je dirais, au lancement de ces sociétés, parce que il y en a certains que j'ai connus en tant que joueur, mm-hmm, avant même qu'ils deviennent éditeurs.
D'accord, d'accord. Et ces rencontres se sont faites sur les salons, sur les...
Alors, il y a eu des enchaînements. Assez particulier, c'est que c'était le tout début de notre entrée dans, je dirais, le monde du jeu de société. Je regardais un peu sur Internet.
Oui.
Et Fall avait envoyé à l'époque, un peu sous forme de blague, le fait de dire « on fait notre premier jury des Trick Track d'Or, est-ce que vous voulez venir à Orléans pour participer à ces jurys ?» Et à l'époque, on a été 3 à se déplacer.
Oui.
Donc il y avait N4, moi, et il y avait Crasé qui s'était déplacé. Donc il y avait 3, on va dire, non-orléanais,
oui,
qui étaient arrivés. Ils étaient venus nous chercher à la gare un peu surpris. Et cette expérience fait qu'on a eu une proximité qui est un peu complètement différente, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout le succès qu'à Trick Track. C'était une communauté qui était beaucoup plus restreinte.
Oui.
Et donc une proximité plus grande, à la fois, je dirais, des éditeurs, des auteurs, dans un monde qui était beaucoup plus resserré.
D'accord. Et c'était en quelle année, tu t'en souviens, ou...
Alors donc, ça c'était 2001, je pense.
2001, d'accord.
On est vraiment rentré 2001-2002, en fait. Ça a commencé, il y a eu des enchaînements assez rapides, c'est qu'on est à la fois rentré au jury du Trick Track d'Or, on a rencontré certaines personnes. Juste avant, on avait participé, en fait... à Cannes une première fois où, oui, on avait découvert Vinci Kauna,
oui,
et c'est ça qui nous avait repoussé vers le jeu de société, parce qu'on avait joué quand on était plus jeune, mm-hmm, mais il y a toute une période pendant laquelle on ne jouait plus.
Donc c'était une jeux. Redécouverte du jeu de société,
oui, et puis surtout une découverte des jeux un peu modernes, oui, avec des nouvelles mécaniques. Ça, c'est ça qui nous a attiré. Mmh. Donc on a eu une première expérience à Cannes via un As d'Or, en fait, où à la fois on est retombé vers Kauna en jeu à deux,
oui,
Vinci de Philippe Kayert. Et c'est ces deux jeux-là qui nous ont fait raccrocher, je dirais, aux jeux de société. Mmh. Après, on est rentré au niveau du jury de Trick Track d'Or.
Oui.
On a testé Contrario. Fall nous a dit qu'il y avait un des auteurs qui était Roberto Fraga et Mathieu Despnou, oui, qui seraient présents à Cannes. On est retourné à Cannes, on les a rencontrés physiquement. Et à cette époque-là, on avait une proximité qui était directe parce qu'il y avait peu de personnes qui s'intéressaient à ces auteurs-là. Et en parallèle, on a pu rentrer dans un des week-ends jeux qui avait été constitué depuis peu de temps, qui était le Belgo Ludique,
oui,
au sein duquel on a pu rencontrer à la fois Thomas Provost, Cédric Comon,
oui,
mais on a aussi rencontré Philippe Despalières qui était présent, oui, qui on a passé une soirée à jouer à Carabrand. On a rencontré Philippe Kayertz, à qui on a mangé, Vinci, on s'est retrouvé en face de lui, à une table. On dit, oh, ben c'est l'auteur de, justement, de Vinci qu'on avait découvert peu de temps. Et ça a été très, très vite de côtoyer plein de personnes qui, aujourd'hui encore, sont, je dirais, implantées, sont d'autant plus implantées aujourd'hui qu'il y a 15 ans, en fait, on va dire, dans le monde du jeu.
Donc, ça a été une suite de rencontres et qui, comment dire, avec des relations qui continuent encore aujourd'hui.
Oui, alors après, il y a forcément des relations qui sont plus ou moins serrées avec certaines personnes qui ont continué, mais sur l'ensemble des personnes qu'on a rencontrées, en tout cas, on n'a aucune, je dirais, mauvaise expérience de tous les gens qu'on avait à cette époque. C'est des gens à qui on a, je pense, une relation un peu particulière parce qu'on était là très tôt. Après, avec certains, je dirais que ça a continué de façon encore plus proche que d'autres. Il y en a qui on va encore en vacances aujourd'hui, d'autres qu'on voit moins souvent. Mais c'est je pense qu'il a été un moment marquant qui nous a introduit dans le monde du jeu de société, dans une, on va dire, un petit comité qui aujourd'hui est beaucoup plus large, mais avec pour lequel on a pu garder individuellement des relations un petit peu particulières, qui sont sympas en fait.
D'accord. Et là, donc tu disais que le Trick Track d'Or, je suppose la finale des Trick Track d'Or, c'est ça, était organisée ici depuis 3 ans.
Les 3 dernières années où il y a eu un jury physique, la finalisation, c'était chez nous en fait. Donc les Trick Track ont été resserrés à peu près, je dirais, 25 personnes, entre 22-25 personnes sur les 3 dernières années où on s'est réunis physiquement. Parce qu'avant, c'était monté à plus de 100 personnes et c'était assez mobile dans différents endroits. Et on s'est retrouvé avec un jury qui était assez régulier, en fait, où il y avait quelques changements d'une année sur l'autre, mais où il y a des gens qui ont commencé à apprécier être ensemble, à participer à un jury. Et en ayant des points communs, je dirais, sur les catégories de jeux qui aiment bien, qui étaient plus vers les jeux un petit peu plus stratégiques que les jeux d'ambiance, qui sont pas toujours évidents à comparer au sein d'un jury. Se comparer, on a eu à le faire, un Kaylus et un Time's Up.
Oui.
Au sein d'un même jury, c'est quand même compliqué.
C'est pas évident.
Alors, c'est deux jeux que j'adore pour des raisons très différentes.
Mais sur quels critères les comparer?
Voilà, sur quels critères les comparer, c'est compliqué.
Oui. Et donc, toi, ta préférence va plutôt aux jeux de stratégie, voire à des jeux avec des règles plutôt complexes.
Oui, c'est ça, en fait. Sur les jeux, enfin, je dirais que mes jeux préférés, je dirais, dans leur grande définition, sont plutôt des jeux avec des règles un petit peu complexes, des mécaniques qui font appel à des réflexions plutôt poussées, de la stratégie, et des jeux qui vont commencer, je dirais, à durer entre 1h30 et 3h sur les typologies de jeux que je préfère. C'est pas pour autant que ça m'empêche de pratiquer certains, je dirais, bons jeux d'ambiance, je vais pas pratiquer des jeux d'ambiance pour pratiquer des jeux d'ambiance. Par contre, que ce soit un Time's Up, un Codename, des jeux comme Concept, tout ça, c'est un vrai plaisir et je les pratique assez régulièrement. Mais j'aime bien me retrouver, et si je passe une soirée complète, ce sera plus rarement sur des jeux d'ambiance que sur
des jeux de stratégie,
qui sont plus dans ma cible, et surtout pour lequel il y a un véritable intérêt, parce qu'il y a une vraie complexité d'accès aux règles, des choses comme ça. Et c'est très agréable de pouvoir, je dirais, transmettre ces règles, de pouvoir faire partager ces jeux-là, qui sont beaucoup plus difficilement accessibles par une grande partie du public.
Oui, évidemment. Oui. Et donc, justement, ça nous amène au Diamant d'Or. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est le Diamant d'Or et comment c'est arrivé?
Alors, le Diamant d'Or, en fait, vient de... principalement d'un double événement. C'est à la fois Trick Track avait une transition qui était beaucoup plus vers des votes en ligne, donc beaucoup moins de pertinence à avoir un jury physique, et également une partie de ce jury du Trick Track d'Or qui trouvait un petit manque de prix, de plaisir de jeu autour de ces jeux un petit peu complexes.
Oui, parce qu'on voit que les prix récemment ont tendance à aller vers des jeux plus légers que...
Oui, et puis je pense qu'il y a une vocation derrière commerciale de beaucoup de prix, après qui ont peut-être des impératifs marché qui sont beaucoup plus grands. Le monde du jeu s'est professionnalisé, et derrière, avoir des jeux qui puissent avoir une grande accessibilité et qui soient accessibles à des moins joueurs que des purs experts du jeu, qui sont prêts à passer 30 minutes dans une règle 45 minutes, sont devenus les habitudes des différents prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un trictrac d'or, un as d'or, un spiel classique, on reste dans des catégories qui sont quand même assez légères.
Oui.
Après, sur des degrés qui peuvent être un petit peu différents selon les prix. Mais on avait du mal à retrouver des jeux qui ont une certaine complexité de règles, qui peuvent avoir 30 minutes d'explication, qui sont pas forcément encore traduits, pas forcément très bien diffusés. Et c'est des jeux comme ça qu'on avait envie de mettre en avant, parce que comme on a la chance de pouvoir aller régulièrement à Essen, d'avoir des contacts avec les auteurs, on a accès à ces jeux. Et donc c'est tout un pool, je dirais, de joueurs qui appartenaient soit à la sélection du dimanche avec Martin Wittberg,
oui,
soit à boîte à jeux avec Diplo, Fred, soit qui étaient en partie les membres du jury historique, on va dire, des Trick Track d'Or, qui ont envie de se réunir et de continuer à passer des bons moments ensemble pour pratiquer ces jeux-là et à faire profiter d'expériences des fois un petit peu plus pointues dans ces jeux précis, et surtout avec un accès à des gens qui ont pris le temps de traduire les règles, parce qu'il y a des jeux qui sont qu'en allemand.
Oui.
Alors après, il y a des jeux qui viennent de pays assez lointains, comme là un des derniers qu'on a découvert qui est Yokohama, qui a juste une traduction anglaise, mais qui a une difficulté aujourd'hui d'accessibilité, rien que pour le trouver,
oui,
et qui commencera à distribuer Essen, qui sera un Kickstarter.
Oui, oui, oui.
Et c'est ces typologies de jeux, quand on les trouve bons, qu'on a envie de mettre en avant et de rendre plus accessibles au public, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué d'essayer beaucoup de gros jeux. Autant des jeux d'ambiance, on peut en enchaîner 10, les tester et acheter celui qui nous plaît, autant sur des jeux de stratégie, à la fois avoir accès au jeu lui-même, avoir le contenu de la règle, passer ce barrage-là, le tester et choisir, ce sera beaucoup plus rare. Les communautés seront beaucoup plus limitées à pouvoir avoir le temps,
oui,
le choix, l'accessibilité à ces jeux-là pour les tester. Et le but du Diamant d'Or, c'est de les aider à faire les bons choix, mettre en lumière certains jeux qui sont peut-être pas bien diffusés, mais qui ont été trouvés super intéressants, d'éventuellement booster certaines personnes qui vont être encore plus enclins à traduire certaines règles,
oui,
pour les rendre plus accessibles encore sur le marché. Et dans l'idéal, ce serait peut-être de faire traduire un jeu qu'on trouve super bon et pour lequel l'accessibilité est limitée due à sa langue ou due à sa faible diffusion.
D'accord, d'accord. Et le Diamant d'Or, là, existe depuis combien d'années maintenant ?
Alors, le Diamant d'Or a juste été créé l'année dernière.
Oui, donc la première édition, c'était l'année dernière.
La première édition était en décembre dernier. On va changer un peu les dates, on le décale d'un mois pour avoir un peu plus de chance pour tester les jeux, parce que la problématique du Diamant d'Or, c'est comme si ce sont que des gros jeux. Il y a énormément de sorties à Essen.
Oui.
Il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui aient le temps de tester une large variété de jeux. Parce que le système de sélection de Diamant d'Or, c'est un peu, on va dire, 25 jeux sélectionnés sur Essen et un petit peu avant, de base par les fondateurs, on va dire, du Diamant d'Or.
Oui.
Et ensuite, tout un pool de votants qui va représenter à peu près 45 personnes qui peuvent tout à fait proposer des jeux que eux ont repérés et qui peuvent intégrer la présélection du Diamant d'Or. L'année dernière, on a abouti à peu près 45 jeux.
Oui.
Et sur ces 45 jeux, on a fait une sélection et 8 jeux ont été sélectionnés pour participer au jury du Diamant d'Or. Et 22 personnes sont réunies pour voter déterminer quel sera le Diamant d'Or, d'argent et de bronze au sein de ces 8 jeux.
D'accord. Et donc, c'est une fois ces 8 jeux sélectionnés, c'est quoi ? C'est un week-end qui est organisé pour faire jouer aux jeux de nouveau
Oui, donc c'est un peu le même principe que comme étaient organisés les Trick Track d'Or.
Oui,
on a organisé les Diamants d'Or. Là, on a la chance de pouvoir le faire chez nous parce qu'il y a un peu d'espace. Et pareil, on réunit... là, ce sera entre 22 et 24 personnes pour tester ces jeux-là. Alors, c'est un week-end qui est encore plus dense que ce que pouvait être le Trick Track d'Or parce que là, il n'y a que des jeux qui ont un certain poids, donc quand on dit un certain poids, c'est tant au niveau de la longueur de la règle que de la longueur de la partie.
Donc c'est un engagement physique
et
mental.
C'est un engagement de préparation,
oui.
Et c'est un engagement aussi même avant ce week-end-là, parce que on veut, pour pouvoir sélectionner un jeu, qu'il était au moins testé par 8 personnes différentes,
oui,
et au moins 2 groupes de joueurs, pour pas qu'il y ait une influence de dire un phénomène un peu fanboy qui se développe dans un pool de joueurs où il y a 8 personnes qui ont testé, qui ont tous adoré le jeu.
Oui, oui, oui.
On veut éviter ça, et après on fait différentes méthodes, je dirais, de notation pour prendre en compte à la fois le nombre de personnes qui ont joué et la qualité des notes de chacun des jeux, donc pour laisser une chance à des jeux qui seraient un peu moins joués que des jeux qui seraient très joués, mais quand même prendre en compte que si tout le monde a apprécié un jeu que ça l'impacte un petit peu pour que ça présente dans la sélection.
D'accord.
Donc aujourd'hui on a réussi à avoir quelque chose qui est assez équilibré pour sélectionner 8 jeux, et donc cette année on refera la même méthode, mais on s'est laissé un mois de plus pour avoir plus de chances justement de pouvoir bien tester un panel le plus large possible de jeux.
Oui, oui, oui.
Pour donner un petit exemple, l'année dernière, moi j'ai dû tester 26 jeux de cette catégorie-là avant le prix. Et tous les jeux de la sélection finale, j'en avais fait au moins 3 parties avant la date du jury. Donc, en termes de temps, c'est...
Plusieurs parties. Par exemple, Yokohama que tu as... Est-ce qu'il est présélectionné, Yokohama? Alors, ou pas?
Pour l'instant, il est présélectionnable. Ouais. Enfin, il sera dans la liste parce qu'il est dans la cible. Oui. Yokohama, c'est déjà un jeu dans lequel j'ai fait 6 parties et que j'ai essayé de jouer avec un maximum de joueurs différents dans des configs différentes. Parce que pour juger d'un jeu, il faut à la fois changer les joueurs et peut-être changer le nombre de joueurs. Surtout sur beaucoup de jeux stratégiques, tester à 3, tester à 4, voire à 5 si c'est possible. Parce que ça peut complètement changer la dynamique du jeu. Et c'est important de pouvoir le signaler. C'est pas pour autant qu'on pourra pas garder un jeu qui est très bon à 4 et qui a un problème à 5, mais faut qu'on puisse le signaler pour que les gens qui ciblent tel ou tel type de jeu n'aient pas de mauvaise surprise.
Oui, c'est ça. Oui.
Le but, c'est ça. C'est de donner le plus d'informations possible et que quand quelqu'un passe à un acte d'achat dans ces catégories de jeux qui sont un peu spécifiques, il ait un vrai plaisir vis-à-vis de sa partie et qu'il n'ait pas toute une partie déceptive parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ses attentes.
D'accord. Et là, donc, tu disais qu'il y avait l'année dernière donc un peu plus de 40 jeux qui avaient été présélectionnés. Oui. Cette année, est-ce qu'il y a déjà des jeux qui ont été présélectionnés ou...
Alors, c'est toujours difficile parce que là, on est assez en amont d'Essen.
Oui.
Il y en a énormément qui sortent à Essen, mais là, typiquement, Yokohama était une des cibles. Et ce qui nous fait d'autant plus plaisir, c'est qu'il vient du Japon.
Oui.
Donc, ça rajoute un côté un peu exotique, on va dire. Et c'est pour l'instant un jeu qui, dans les gens qui l'ont pratiqué, fait une unanimité assez forte.
Oui.
Donc, qui a de bonnes chances de se retrouver dans les 8 finalistes. Mais après, pour autant, on peut avoir des sorties à Essen qui soient tellement exceptionnelles qu'ils puissent ne pas figurer dans la liste.
Voilà, tout dépendra du cru
d'Essen. Tout dépendra. Parce que, à la fois, on est sur la qualité intrinsèque d'un jeu, mais aussi sur la comparaison vis-à-vis d'autres jeux qui sortent dans une temporalité imposée. Alors, sur la temporalité, on est sur des jeux qui ont un an, globalement, avec des fois des ajustements qui peuvent être faits en fonction de sorties Kickstarter ou de sorties dans certains pays, où là, on va surtout prendre en compte le fait que le jeu soit très bon ou pas, et parce qu'on va pas rater un jeu qui est exceptionnel si jamais il y a un petit décalage d'un mois sur la sortie finale, ou le but, c'est qu'on puisse le tester. Qu'on le teste dans des vraies configurations, c'est-à-dire qu'on ait des boîtes définitives, on ne veut pas tester de proto ni d'éléments comme ça, et qu'on les suffisamment fait tourner au sein de nos différents groupes de joueurs, parce qu'on a des groupes de joueurs qui sont localisés sur Tours, Paris, il y a des joueurs en Belgique, il va y avoir et c'est ces différents pools qui vont pouvoir se prononcer sur le jeu. Avec Martin Wiberg, on a un autre pool autour de Besançon.
Oui. Enfin,
donc on a des gens qui sont assez éclatés. Après, avec des testeurs qui peuvent être, il y en a un qui est sur Grenoble, l'autre sur Béziers. Enfin, le but, c'est de ramener des gens qui sont dans des groupes de joueurs assez différents pour avoir des avis qui sont le plus croisés possible, et à la fin avoir un jeu qui fera jamais consensus, parce qu'on est sur des gros jeux et on sait que c'est des jeux assez typés
de préférence et de...
Mais l'année dernière, quand on a un Diamant d'Or qui est Mombasa, un second Tuscany, un troisième de Galériste, on sait que ce sont des jeux de qualité. Alors après, tout le monde bien sûr n'aurait pas forcément fait le même classement, mais on sait qu'on se régale toujours à les ressortir.
Oui. Et puis c'est ça le but. C'est un classement qui est très cohérent par rapport au buzz qu'ont fait les jeux et puis à leur qualité mécanique et en termes de complexité notamment, qui sont des jeux assez lourds quand même.
Oui, voilà, c'est toujours avec des règles un petit peu complexes, un peu pointues, avec des mécaniques qui ont tous leur dose d'originalité ou pas, avec des thèmes des fois qui peuvent être assez forts. Donc, on s'interdit pas de sélectionner n'importe quel type de jeu. Des fois, il y en a qui vont beaucoup plus nous plaire parce qu'il y a un thème qui est très fort, qui est très posé. D'autres parce que la mécanique est irréprochable. D'autres parce qu'il y a une vraie petite innovation au niveau des stratégies possibles, au niveau du gameplay. Et ça, c'est important en fait qu'on se laisse cette ouverture-là, parce que c'est vraiment un des objectifs. C'est dans les catégories de jeux un peu complexes, pouvoir faire découvrir ce qu'on aime.
D'accord. Et suite à la première édition donc du Diamant d'Or qui a eu lieu l'année dernière, quelles ont été les retombées ou en termes de communication, est-ce que ça a eu un petit écho ou...
Alors sur la première édition, on a assez peu communiqué.
Oui.
En fait, de base, on voulait déjà constituer quelque chose de cohérent. Mais par contre, ce qu'on a vraiment apprécié, ce sont les différentes typologies de retours. C'est qu'on a eu beaucoup de retours très positifs en disant ben, ça fait du bien d'avoir un jeu, enfin, un prix positionné dans ce type de jeu. On trouve beaucoup moins de repères dans ces catégories de jeux-là que dans des jeux plus grand public. Mmh. Donc là, on commence, on va dire, au familial plus.
Oui. Oui.
Jusqu'à à des jeux plus complexes. Alors, le but, c'est pas de faire des jeux qui durent 12 heures. Mais c'est de faire des jeux, qui ont quand même réellement une complexité. Et ça, on voit que même des prix comme le Kenner Spiel ou autres qui sont censés s'adresser aux joueurs sont plus du tout sur ces cibles-là.
Non, non, ouais, voilà. Parties plutôt courtes.
Et on retrouve d'ailleurs sur le Kenner Spiel un peu ce qu'on retrouvait dans les Spiel d'il y a 10 ans. Mmh. En fait, il y a une évolution vers des jeux grand public et qui sont tout à fait légitimes parce qu'il y a tout un côté commercial qui est très présent et des impératifs liés aux différents jurys, tout ça. Et nous, là-dessus, très clairement, on veut revendiquer quelque chose qui ne soit pas du tout lié à une quelconque ambition commerciale, mais vraiment sur le plaisir de la découverte des jeux.
D'accord, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup, Dimitri, pour tous ces éclairages sur le Diamant d'Or. Et puis, je te souhaite une bonne deuxième édition du Diamant d'Or.
Eh ben, on va faire en sorte que ça se passe bien et puis de sélectionner les meilleurs jeux possibles pour essayer de mettre en lumière des petits bijoux un peu complexes pour cette nouvelle édition et qui aura lieu en janvier.
D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et rappelons que l'an dernier, les Diamants d'Or, donc effectivement, il y a un peu un côté Trick Track d'Or ancienne version, c'est-à-dire des joueurs qui se réunissent sur un gros week-end pour jouer à ces jeux-là, qui prennent quand même du temps à jouer, qui voilà se réunissent et qui décident entre eux. L'année dernière, c'était notamment Mombasa qui l'avait gagné avec Food Chain Magnet dans la liste, Grand Austria Hotel, Nippon, The Gallerist, Marco Polo, Tricerion.
Tout ça, c'est des noms de gros jeux.
Et Tuscany, ouais, c'est effectivement des gros jeux, quoi. Donc ne doutons pas que le gagnant de cette année sera à surveiller. Je trouve que c'est un indicateur pour les joueurs un peu qui ont commencé dans les années 2000 ou même plus tôt et qui sont encore à la recherche de sensations comme ça, de jeux qui peuvent prendre du temps et qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont clairement pas des gateway games, qui ne sont clairement pas du familial plus, qui sont des jeux qui s'assument comme gros joueurs et qui sont réservés toujours à un public de niche mais qui existent encore.
Ouais, qui sont peut-être moins grand, des jeux moins grand public, hein, mais qui trouvent toujours...
Toujours la même niche depuis 15 ans en fait.
C'est ça. Alors si pendant votre soirée du réveillon, vos invités ou vos hôtes se sont tous endormis sur le canapé et qu'ils ont refusé la partie d'un bon gros jeu velu comme Agricola, Kaylus ou Russian Railroads que vous vouliez lancer, vous avez toujours la possibilité de vous lancer dans des jeux solo et on va tout de suite écouter Stéphane et Élise nous parler de L'Aventurier et de Color Coup.
Bonjour, c'est Stéphane.
Et Élise.
Et nous sommes de retour pour notre troisième chronique de casse-tête et de jeux solo. Avec aujourd'hui, Élise.
L'Aventurier de Smart Game et Color Coup de Made Cave Bird Games.
Oui, c'est pas compliqué déjà. Made Cave Bird Game. Les jeux de l'oiseau dans la cave qui est fou, quoi. C'est rassurant.
C'est vrai.
Et bah, tu sais que c'est une société américaine, en fait, Made Cave Bird
Game. Oui, j'avais compris que c'était américain.
Voilà. En fait, ça a été importé en Europe par Morning Player. Et je sais pas si ça va continuer. Faudra leur demander. Puisqu'ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient un petit peu d'importer des jeux qui se concentraient sur l'édition. Ils ont changé de nom. Ils s'appellent Morning maintenant. Voilà, faudra leur demander. En tout cas, c'était deux frères à l'origine, tu sais, qui ont inventé ça. Et qui ont fait des prototypes en bois avec notamment des petites boules. Tu sais, les petites boules qu'on met dans les placards. Les boules anti-mite. Au départ, en bois, en cèdre, et ils ont peint en fait dans leur garage pour faire le jeu. C'est rigolo, hein. Avant évidemment de faire une vraie fabrication.
Bon bah, vu qu'on parle de Color Coup, autant commencer par celui-là.
On va commencer tout de suite par Color Coup.
C'est très simple, hein. C'est un Sudoku, mais avec des couleurs et avec des petites billes en bois, hein. Un plateau en bois très joli et des petites billes en bois colorées, donc de différentes couleurs, donc du rouge au violet foncé.
9 couleurs.
9 couleurs. Et c'est donc il y a 110 niveaux, allant de easy à extrême.
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 La difficulté totale.
La difficulté extrême.
Alors, est-ce que tu peux quand même nous expliquer le principe du jeu? Parce que Sudoku avec des billes de couleurs, ça veut dire quoi en fait?
À la base, donc, on a des petites cartes avec des niveaux. Et dessus, bah, y a déjà des...
quelques billes sont déjà placées.
Quelques billes sont déjà placées, donc on a juste à les placer sur le plateau. Et après, bah, on continue bah, en veillant à ce qu'il n'y ait pas deux fois la même couleur dans une ligne, dans une colonne ou dans un carré.
Voilà, sachant qu'un carré, c'est une grille de 3 par 3. C'est et ça. Qu'il y a en fait 3 grilles de 3 par 3, c'est-à-dire 9 petits trous par 9 petits trous. Ça a 81 emplacements. Du coup, dans le jeu, il y a combien de billes,
81 billes.
81 billes, bravo.
C'est bien, je sais faire des maths. Et c'est pas drôle, je vois pas pourquoi tu ris.
D'accord. Je vous présente ma fille Élise. Toujours un plaisir de faire du podcast avec ses enfants. Élise.
Moi j'y ai pris goût. Hein.
Ouais, tu as pris goût. En fait, la grande spécialiste de ce jeu, c'est.
Maman.
C'est maman. Alors c'est un cadeau que j'ai fait d'ailleurs à maman, au moins
oui,
à Noël.
C'était l'année dernière, non? Même
et
pas.
À ce jour, c'est le jeu de société qu'elle a le plus sorti, c'est-à-dire que je peux revendre Agricola, je peux revendre
L'âge de pierre.
Arles, ouais, l'âge de pierre elle aime bien, on va pas
Bruges,
revendre. Arles, il n'y a pas eu le temps d'y jouer, ou elle a joué une fois en solo, et donc en fait je peux revendre quasiment la moitié de ma collection parce que celui-là, il est tellement sorti qu'elle a fait, tenez-vous bien, les 110 niveaux.
Il y en a qui sont super durs.
Il y en a qui sont super durs, et elle est en train
de refaire.
Elle
a tous réussi.
Elle est en train de recontinuer, parce qu'évidemment on oublie comment on avait résolu, et donc on refait. Et toi, Élise, est-ce que tu l'aimes bien, ce jeu?
Oui, ça va, mais je trouve que des fois, on est un peu quand même bloqué et c'est un peu embêtant, voilà, quand on est bloqué.
Alors moi, je trouve que c'est très agréable à manipuler. C'est un magnifique casse-tête parce qu'il y a le plaisir du bois. Au niveau ergonomie, ça pourrait être un petit peu mieux parce qu'on est obligé quand même d'utiliser des petits ramequins pour mettre toutes les billes qu'on a utilisées au début parce qu'il faut les trier par couleur quand même à peu près.
Pour ce qui est du bois, c'est mieux que pour le plastique parce que chaque fois, quand on manie le plastique, ça fait un bruit bizarre. Enfin, ça fait un bruit un peu désagréable à l'oreille, alors que le bois, bah, c'est un bruit très doux, très calme. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de. Ouais, au niveau de la main, enfin, quand on touche, c'est très agréable.
Niveau tactile, c'est très agréable aussi. Ouais. Pas besoin de tablette pour s'éclater avec le tactile du bois. D'accord, ok. Alors voilà, donc c'est Color Coup. Alors, ce qui est très plaisant dans Color Coup aussi, c'est qu'on peut réfléchir à plusieurs, c'est pas gênant.
Parce que souvent dans les cassettes, en fait, c'est celui qui est en train de le faire, et ben, il ne peut pas vraiment se faire aider parce que sinon l'autre il va trop lui montrer la solution et il ne pourra plus rien faire. Donc là, c'est pas. Parce que vu qu'il y a plusieurs choses à placer, vu qu'il y a beaucoup de choses à placer, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de. Je te prends ton truc et je fais tout à ta place.
Là, en fait, c'est des hypothèses, donc on peut très bien faire une hypothèse tout seul et puis dire bah, là, je te prouve que cette bille-là, elle va là parce qu'elle ne peut pas aller là, parce que ceci, cela.
Voilà,
donc on peut avancer à deux un peu plus facilement. D'ailleurs, ça t'arrive de jouer avec ta maman.
Oui.
Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Les petites, y a pas de livret, tu l'as dit déjà.
Non, y a pas de livret, c'est juste une espèce de paquet bizarre, enfin, une espèce de pochette, un paquet avec des pleins de, bah, avec tous les 110 petites cartes dedans.
Un recto, un verso.
C'est ça.
Oui, les niveaux sont indiqués dans un arc-en-ciel de couleurs.
Un arc-en-ciel de couleurs, ouais.
Ah ouais. Petit reproche, moi je trouve qu'il manque une petite rigole aussi sur le côté du plateau. Ça permettrait de mettre les billes quand on réfléchit, des
c'est
choses
vrai.
Comme ça.
Parce qu'en fait, il y a juste un espèce d'écart entre.
Et même quand on fait la configuration, on pourrait avoir une petite fente pour poser la carte, justement, pour l'avoir sous les yeux.
Il y a des jeux là où il y a ça. Par exemple, Rush Hour, il me semble qu'il y a ça.
Ouais, il y a moyen de faire une version 2, encore mieux. Bref.
D'ailleurs, on devrait faire une chronique, en fait, sur Rush Hour.
Oui, on vient de découvrir qu'on vous fera une quatrième chronique sur Rush Hour. C'était donc Color Coup, un jeu Madcap, Birdcam, bon, importé en tout cas par Morning à une époque, que vous trouverez facilement dans toutes les boutiques, notamment chez notre partenaire adoré, Philibert, qu'on aime d'amour.
Maintenant, on va parler de L'Aventurier, un jeu de Smart Game, je le rappelle.
Aventurier de tous les guerriers, pom 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 pom, la la la.
Je ne ferai pas de commentaire de ce qui.
Tu peux pas faire de commentaire sur l'humour des années 80.
Non, mais je n'ai pas envie en plus, voilà.
Tu connais cette chanson, Les Aventuriers, Bob Moran?
Absolument pas, et je n'ai pas envie.
D'accord.
Bon, passons. Donc L'Aventurier, un petit plateau, là où il y a possibilité de mettre 3 cases sur chaque côté, et enfin de 3 petites pièces. Il y a 8 blocs et un petit pion tout mignon. Oups.
Qui vient de mourir.
Donc il y a...
Comme un taquin en fait.
Oui voilà. Donc en fait on doit déplacer des blocs pour que en fait, l'aventurier, enfin le petit pion est posé... à un endroit précis et il doit sortir du labyrinthe et nous on doit déplacer les blocs afin de lui faire créer un passage
parce qu'il va se déplacer de bloc
voilà.
En bloc.
Donc il y a deux petits escaliers, des petits
une petite plateforme à hauteur, sortie est en hauteur, il démarre forcément en bas parce qu'il n'y a pas de point sur les escaliers et il y a un petit plan d'eau dans lequel il y a des
crocodiles.
C'est assez thématique hein.
Oui. Donc maintenant, je vais parler de la notice. Donc c'est un petit carnet avec il y a 48 niveaux. Il n'y en a pas 60, il y en a 48. Allant de starter à master. Et puis après, il y a tous les niveaux. Donc en fait, pour la mise en place, il y a des petits, il y a une sorte de petits signes sur les coins des petits blocs pour dire où exactement où les mettre. Donc du coup, comme ça, on peut les déplacer plus facilement. Enfin, à mon avis. Donc ensuite. Donc
la solution, c'est en faisant, en suivant un petit peu cette. De savoir qu'on déplace tel bloc dans tel sens.
Oui, c'est ça, en fait. Il y a, à la fin, la solution, par contre, c'est un peu compliqué à comprendre.
Oui, on dirait des codes de cheat code sur jeu vidéo avec la manette quand il veut faire droit-droit, bas-de-gauche, gauche-gauche-droite.
Donc, par exemple, imaginons, il y a un losange. Il faut le mettre en bas. Ensuite, le rond, il faut le mettre à droite. Le pion, il faut le mettre à droite, en haut et tout. Enfin, c'est un petit peu des codes, on dirait des codes secrets. C'est bizarre. Après, ça, c'est pas forcément très facile à comprendre, je trouve.
Non.
Enfin, c'est pas la partie la plus pratique du jeu,
non,
on va dire.
C'est normal, puisque c'est très thématique, avec des blocs un peu réalistes. Et toi, t'aimes bien le jeu-là ?
Oui, ça va, mais des fois, on est un peu bloqué. Et en fait, je me suis retrouvée plusieurs fois bloquée à tout tourner pour enfin réussir à qu'il y ait un bloc qui marche, mais après me rendre compte que finalement, ça marche pas parce qu'il y a un autre bloc qui est coincé, donc du coup, je retourne et tout. Enfin,
ouais, c'est le principe du taquin, c'est un petit peu énervant.
Oui, des fois, je suis super bloqué parce que je dois tourner et tout, et ça m'embête un peu.
Ouais. Moi, c'est un peu pareil, c'est pas mon préféré. Alors, au niveau matériel, je trouve superbe, c'est très thématique, c'est amusant comme tout.
Par contre, il y a toujours le bruit du plastique. Hein,
au niveau du jeu, je le trouve moins. Intellectuellement, je le trouve moins intéressant.
Je sais pas.
Moi, je trouve qu'ils coulissent bien, par contre, ils ont fait vraiment une belle résine.
J'aime bien la matière qu'il y a au fond, là. Je sais pas pourquoi.
La matière de l'eau au fond est très agréable. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça coulisse bien sans faire trop de bruit désagréable. Alors pareil, petit format.
Oui.
Petite boîte comme un Q-Candy s'emporte très très bien en voyage. Ok.
Juste un petit mot sur ColorCoo. La boîte est énorme. Donc si vous voulez l'emporter en voyage, vous avez intérêt à avoir un grand sac ou une grande valise.
Ou une grande voiture comme nous. Avec une maman qui sait charger tout au millimètre. Qui sait jouer à Tetris avec les valises.
Ouais.
Je voulais juste dire aussi un truc sur ColorCoo qui est quand même très bien. C'est que une fois qu'on a fini les niveaux, il suffit d'assigner un numéro 1, 2, 3 à chaque couleur. Par exemple, c'est marqué d'ailleurs au dos du petit pack de cartes sur le packaging directement. Vous pouvez prendre n'importe quelle grille de Sudoku classique dans vos magazines télé ou sur lequel il y a des grilles de ColorCoo. D'ailleurs, vous pouvez même acheter un petit magazine
de Sudoku.
De Sudoku. Ouais. Donc vous pouvez prendre n'importe quel magazine télé dans lequel il y a des grilles de Sudoku que vous ne faites jamais. Avec les numéros, c'est quand même pas très marrant. Et vous pouvez les convertir comme ça facilement au niveau de ColorCoo. Et c'est beaucoup plus agréable à faire.
Oui, parce qu'en fait, les Sudoku, c'est toujours avec les numéros. Donc en fait, on est un peu plus bloqué, je trouve. Parce que les couleurs, c'est plus joli, c'est plus visuel, c'est mieux.
Ouais, et puis on manipule, c'est plus agréable que d'écrire et d'effacer tout le temps et de griffonner. Et Lise, un petit dernier mot pour conclure.
On a tout dit.
Voilà. Eh bien, on va se dire au revoir en attendant la prochaine fois. On va parler du dernier jeu solo qu'on a.
Rush Hour de Think Fun. Oui, voilà. On a acheté une extension avec un petit excision. Tout mignon. C'est trop mignon.
Une extension avec quoi, Elise ?
Avec un petit taxi jaune.
Eh bien, voilà. À la prochaine fois. Et en attendant, jouez bien.
Même tout seul.
Même tout seul.
Et on va finir par la chronique de quelqu'un qui est assis autour de la table et qui n'est pas moi. Donc, je vous laisse deviner qui est l'auteur de la prochaine chronique. C'est celui qui a mis un générique qui sera rappelé aux nostalgiques de... C'était sur M6, je crois, hein, le top 50.
Sur Canal+.
Sur Canal+. Ouais. Et c'était Charlie et Lulu, c'est ça ? Non, rien à voir ?
Non, ça c'était sur M6.
C'est ça, ouais,
c'était,
je confonds.
Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Hit Machine. Voilà. Ouais. Et donc, il sera rappelé aux nostalgiques de Canal+, leurs plus belles années. Et donc, je pense que c'est toi qu'on entend effectivement sur le top 500 BGG. Et aujourd'hui, tu nous parles de...
C'est un jeu qui rentre dans la thématique de la soirée du réveillon pour justement le feu d'artifice de minuit.
Ouais, alors est-ce que c'est Anabi ?
Non, justement pas.
Non, c'est pas Anabi.
Là, on écoute tout de suite ma chronique sur The Manhattan Project.
Salut les joueuses et salut les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Alors pour cet épisode, j'ai choisi un jeu qui colle assez bien au thème de la période. Alors je parle bien sûr de la période de fin d'année et notamment de la soirée de la Saint-Sylvestre, où traditionnellement on allume des feux d'artifice. Et je vais donc vous parler d'un jeu qui colle bien à la thématique. Alors peut-être que les plus cyniques d'entre vous penseront que j'ai choisi ce jeu par rapport aux tensions internationales qui règnent actuellement dans le monde, mais c'était absolument pas le but de mon propos. Je vais donc vous parler d'un jeu dans lequel on lance des fusées, c'est pas un habit, mais c'est le jeu The Manhattan Project. Alors The Manhattan Project, c'est un jeu édité à la base par Minion Games, en version originale, en anglais. Il a été localisé par Marabunta, c'est un jeu de Brandon Tibbetts, et illustré par le trio composé de Victor Tset, Clay Gardner et Sergi Marcet. Entre 2 et 5 joueurs vont pouvoir s'affronter dans des parties d'une durée d'environ 120 minutes. Donc les parties peuvent être assez longues, surtout à 4 ou 5 joueurs. Et au vu de la thématique abordée, il est recommandé pour des joueurs de 13 ans et plus. Le jeu pointe à la 161e place au classement BGG. Alors dans The Manhattan Project, vous êtes à la tête du programme de recherche de l'arme atomique. Le but du jeu reprend donc la course aux armements nucléaires, et il va falloir être le plus rapide à réussir à développer un ensemble de bombes qui nous rapporteront des points. Et l'objectif de fin de partie est d'atteindre un score défini en fonction du nombre de joueurs. Alors le contexte historique n'est pas forcément totalement respecté, puisqu'on mélange un petit peu le projet Manhattan qui datait d'avant 1945, et on mélange aussi un petit peu la course aux armements qui date des années 50 et 60. Mais disons que cette petite souplesse dans l'exactitude historique permet un petit peu de dédramatiser la thématique du jeu. Les mécaniques en œuvre sont essentiellement du placement d'ouvriers et du développement. On aura également de la gestion de ressources, donc des ressources financières et également des ressources de type minière qui vont nous permettre de développer les matériaux nécessaires à la construction des différents types de bombes atomiques. On se retrouve avec un matériel assez prolifique dans la boîte qu'on va positionner sur le plateau de jeu. On va avoir un plateau central sur lequel on va pouvoir faire des actions qui vont être communes entre tous les joueurs. Mais certaines de ces actions seront exclusives, donc tant qu'on a placé son ouvrier, les autres n'y auront pas accès. Et on a également un plateau personnel sur lequel on va pouvoir construire des bâtiments qui pour la plupart reprennent les actions qui sont disponibles sur le plateau commun. Mais généralement elles sont plus puissantes sur les bâtiments qu'on a construits soi-même. Donc le but, ça va être de développer toute son infrastructure pour le développement des bombes atomiques, aussi bien les bâtiments qui vont nous permettre de faire de l'extraction minière, les bâtiments qui vont nous ramener des ressources financières, et également les bâtiments qui vont nous permettre de convertir les ressources minières vers les matériaux qui permettent de construire les bombes atomiques, à savoir l'uranium ou le plutonium. Il va également falloir gérer un stock d'ouvriers, donc on va avoir 3 types d'ouvriers qui ont chacun leur spécialité et qu'on va pouvoir envoyer sur les différents bâtiments pour réaliser des actions. On va avoir des ouvriers standards, des ingénieurs et également des scientifiques. Alors le tour de jeu se passe assez rapidement. En fait, on va prendre un de nos ouvriers pour effectuer une action sur le plateau central et on va également pouvoir activer l'ensemble des bâtiments qui sont sur notre plateau de jeu personnel. L'autre action disponible, si on décide de n'en faire aucune, c'est d'avoir une phase de repos où on va récupérer l'ensemble de ces ouvriers qui sont positionnés aussi bien sur le plateau central que sur le plateau personnel. Alors c'est un jeu où il y a pas mal d'interactions, parce que bon, bien sûr, on a de l'interaction indirecte, hein, où on va surveiller quelles sont les actions que vont faire chacun des autres joueurs et essayer de les bloquer à partir du moment où on a deviné qu'ils ont l'intention de faire une action sur le plateau commun ou s'ils ont l'intention d'acheter un certain type de bâtiment. On peut également laisser volontairement ses ouvriers sur le plateau central pour bloquer une action et afin d'éviter que les autres joueurs l'utilisent. Mais on va également avoir de l'action directe, car on va pouvoir aller s'attaquer aux bâtiments qui sont construits par les autres joueurs. Donc on va positionner des marqueurs de dégâts sur ces bâtiments qui vont les rendre indisponibles. Et on va pouvoir également faire de l'espionnage, où on va placer nos propres ouvriers sur les bâtiments des autres joueurs. Et tant que l'ouvrier sera placé, ben ça va bloquer le bâtiment, et son propriétaire naturel ne pourra pas l'utiliser. Alors heureusement, pour éviter un trop grand chaos, toutes les actions ne peuvent pas être exécutées par tous les joueurs. Par exemple, tous les joueurs pourront pas en même temps effectuer des bombardements sur les bâtiments des autres joueurs, parce qu'en fait, certaines actions ont des slots réservés. Donc elles vont pouvoir être exécutées seulement par un ou deux ouvriers à la fois, et tant que l'ouvrier est placé, l'action est réservée, elle pourra plus être réutilisée. Il faudra donc attendre que le joueur passe en phase de repos pour retirer son ouvrier, et cette action sera à nouveau disponible. Alors bien sûr, on va pouvoir se défendre des éventuelles attaques des autres joueurs en développant des défenses anti-aériennes. Alors bien sûr, tout ça, ça a un coût, aussi bien les attaques que la défense, et ça va nous freiner dans notre développement d'infrastructures de production. Alors pour ce qui est de la localisation de Marabunta, en fait, on a une boîte au format Carcassonne qui déborde réellement de matériel, parce que dans la boîte, ils ont non seulement inclus le jeu de base, mais ils ont également inclus l'ensemble des modules de l'extension Second Stage, qui regroupe 5 extensions, 5 modules d'extension qu'on va pouvoir rajouter au jeu de base. et l'ensemble de ses extensions étaient vendues séparément dans la version originale. Alors ce jeu plaira sans doute aux... Si bien sûr on fait abstraction du thème qui peut être dérangeant, il plaira aux joueurs qui apprécient les jeux à base de développement et de pose d'ouvriers. Mais peut-être que l'interaction assez forte et un peu violente qui peut se dérouler va peut-être en rebuter certains. Parce que c'est vrai que ça peut être assez rageant lorsqu'on développe l'ensemble de ses bâtiments, lorsque l'on a bien développé ses moteurs économiques, ses moteurs de ressources et que tout d'un coup on commence petit à petit à se faire raser ou alors à se faire piquer ses bâtiments via l'espionnage. Et ça peut engendrer des grincements de dents autour de la table. Bon, heureusement, les attaques sont pas non plus destructrices. On va positionner des marqueurs de dégâts sur les bâtiments, donc ça va pas totalement les anéantir, mais il faudra les réparer avant de pouvoir les utiliser. Et ça va nous consommer des ressources et des actions. Alors, disons que les attaques, c'est souvent un moyen pour freiner un petit peu un joueur qui a pris un petit peu trop d'avance. Et sinon, j'ai trouvé que le démarrage de partie était un petit peu lent, le temps qu'on arrive à mettre en place différents moteurs de ressources ou différents moteurs financiers. Et il faudra attendre un certain nombre de tours avant d'avoir des actions qui deviennent intéressantes et rentables. Et à l'opposé, parfois, la fin de partie peut paraître un petit peu abrupte et se termine dès qu'un joueur a posé sa dernière bombe. Vous trouverez le jeu chez Philibert au tarif de 39,90€. Et il est peut-être encore temps de passer commande pour l'avoir pour la Saint-Sylvestre. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une très bonne année 2017, qu'elle soit riche en expériences personnelles et ludiques. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro, et d'ici là, jouez bien!
Manhattan Project de Feu Marabunta, qui a sorti quelques jeux intéressants, hein, Libertalia aussi par exemple, et qui, moi, j'y ai pas encore joué, mais je l'ai, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. C'est vrai que c'est un jeu qui me tentait bien par son thème un peu politiquement incorrect, même si ça reste léger, et puis par le côté visuel. Moi, j'aime beaucoup les graphismes.
C'est un peu cartoon vieillot des années 50.
Ça fait un peu voxel aussi de jeux vidéo. Ça me rappelle certaines jeux de gestion.
Les couvertures de Fallout aussi.
Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Et effectivement, moi, le thème, c'est un truc qui me botte beaucoup. Assez interactif aussi, hein, je crois, quand même, malgré tout, pour un jeu de gestion.
Ouais, tu peux aller détruire les autres un petit peu. Enfin, mais gentiment, parce que tu
n'anéantis
pas non plus toute leur construction, mais ça permet toujours de ralentir avec de l'interaction directe pour essayer de freiner un petit peu un joueur qui avancerait trop vite.
Et toi, c'est comment que tu es tombé dessus? C'est sur le top 500 aussi? C'est un jeu.
Ben, c'est à l'époque, c'était en écoutant Jérémy et Olivier, ils en avaient parlé, mais c'était avant qu'ils soient francisés, et le jeu m'avait intéressé, cet aspect à la fois gestion, mais avec une patte dite Eurogame, hein, où t'as...
Ouais, un peu d'interaction quand même.
Voilà, c'est ça, où t'es pas seulement dans de la gestion pure, où chacun joue dans son coin.
Ouais, faudra que je le fasse à l'occasion aussi. Il y a une extension qui était sortie, hein, il me semble.
Ouais, en fait, c'est tout un groupe d'extensions.
Ouais, c'est la version française qui est...
Et ouais, la version française, en fait, elle comporte l'ensemble des extensions qui sont sous forme de modules, qui sont indépendants, que tu peux intégrer. Et le groupe d'extensions s'appelle Second Stage, et elles ont toutes été intégrées dans la boîte française.
D'accord.
Donc pour le prix d'un jeu, vous avez en fait le jeu de base, plus l'extension qui était vendue à part en VO.
Je me rappelle que j'avais acheté la boîte en anglais. Et quand la boîte en français était ressortie, je l'avais revendue à un ami
et
racheté la boîte en français. Ouais.
Voilà.
Je crois qu'on a fini avec les chroniques, avec toi, qui ferme la marche. On garde le meilleur pour la fin, c'est ça?
Non, c'est par politesse, j'ai présenté les autres avant.
Et on va se quitter là, alors.
Donc on vous souhaite un bon réveillon.
Espérant que vous soyez prudent avec les pétards pour finir.
Voilà, c'est ça.
Sachez que c'est interdit, hein, légalement, les pétards le 31 décembre, hein, c'est que le 14 juillet normalement, hein, mais bon. Briser. La loi est faite pour être brisée un peu quelque part.
Ouais, surtout en Alsace, hein, donc il y a des grosses restrictions sur les pétards, donc évitez. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout, parlez de nous autour de vous. Eh bien, Flavien, moi, je te retrouve très bientôt dans un thermofromage.
C'est ça, qui va aussi avec le thème du réveillon si vous mangez une bonne grosse raclette ou une bonne fondue.
Voilà.
Ou si vous prenez
un plateau de fromage, tout
voilà,
simplement.
Voilà, un plateau de fromage entre la poire et le dessert.
C'est ça. Et en attendant,
jouez bien.
Salut les joueuses et salut les joueurs. Vous écoutez... C'est quoi l'intro? J'ai pas d'intro. Lequel?
Jimmy Celtics 95, la WoW 95. C'est le pote de Paris et qui... Et c'était son pseudo MSN il y a 15 ans.
Et donc Courgeux qui a reçu son bon d'achat Casto pour acheter des nouveaux matos.
C'est ça, il a profité du Père Noël, il a peut-être reçu un Dremel ou effectivement un petit bon d'achat chez Castorama ou le Roi Merlin.
Donc il en aura bon usage pour les prochaines chroniques de l'année.
Et promis, c'est pas l'équipe de Proxy Jeux qui lui a offert.